France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Ils ont deux métiers qu'ils exercent parfois dans la même journée. Poète le matin et chauffeur Uber la nuit. Serveur de bar et comédien, écrivain et prof. Classique. Mais aussi fermière et infirmière, gendarme et guitariste, plus inattendu. Il y en a parfois un métier qui est au service de l'autre. Le job alimentaire nourrit la passion, mais pas toujours. À la Renaissance, on était volontiers peintre et mathématicien, philosophe et médecin. Aujourd'hui, on peut avoir deux boulots alimentaires quand on ne s'en sort pas, un manuel et un prestigieux, ou encore deux métiers passion, comme certains artisans. Comme les traders qui travaillent aussi dans des associations caritatives. Des pompiers qui crachent du feu, des flics stripteaseurs, ça, on l'a fait. J'ai même entendu parler d'un dentiste qui était aussi confiseur, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il existerait ainsi 6 millions de pluriactifs en France. On les appelle aussi les slasheurs, des couteaux suisses qui ne veulent pas trancher, plaisante Le Monde, qui explique que le terme slasheur vient du signe typographique, le slash, qui sépare les différentes activités. Tout de suite donc dans Les Pieds sur Terre sans plus attendre, voici deux histoires surprenantes de double emploi par Olivia Muller et Carole Bailly.
Je suis Jean-Philippe Grimaud, j'ai 62 ans, je suis chirurgien cardiaque et je réside à Pessac, dans la région bordelaise, en Gironde. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, en Charente-Maritime. Des parents, j'ai envie de dire, standards, entre guillemets. Non, mais mon père était secrétaire de mairie, ma mère était cantinière. Voilà, des parents aimants, une sœur avec qui j'ai des rapports très affectueux et aimants. Vers 7-8 ans, j'ai décidé de devenir médecin parce que mon papa avait un ami de lycée qui, lui, était devenu notre médecin de famille. Et je trouvais cet homme très charismatique et beau. En plus, du haut de mes 7-8 ans, je trouvais que c'était un bel homme. Et je me souviens très bien m'être dit, mais si un docteur, c'est ça, je veux être docteur. Et ça a été une décision ferme et radicale. Par ailleurs, j'étais très proche de mon grand-père. J'allais y passer tous les mercredis à l'époque. Et c'est là où j'ai découvert plein de choses, et notamment le bricolage. Mon grand-père était ancien mécanicien de l'armée de l'air. Donc, il avait un atelier avec plein d'outils. Et dès lors qu'il y avait quelque chose à réparer dans la maison, évidemment, il le faisait. Et donc, j'admirais cet homme qui était capable de faire autant de choses de ses mains. Au moment où j'ai commencé les études de médecine, mon grand-père avait des problèmes de santé. À l'époque, je comprenais évidemment pas tout. Il avait ce qu'on appelle de l'arythmie, c'est-à-dire que son cœur ne battait pas régulièrement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fibrillation atriale. Et puis, il avait des problèmes coronariens, c'est-à-dire qu'il avait fait un ou deux infarctus. Et donc, déjà, j'avais senti la notion que le cœur était un organe important. Évidemment, on peut en mourir. Et ça avait, dans la famille, un impact très, très, très important, psychologiquement. Ces premières années de médecine m'ont passionné. Je découvrais l'anatomie, c'est-à-dire mettre des mots, des fonctionnements sur une morphologie, sur un être humain qu'on voit tous les jours. Et en deuxième année, on avait à l'époque accès à ce qu'on appelait les stages hospitaliers. Le hasard a fait que je tombe dans un stage de chirurgie orthopédique. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal cette spécialité. Et donc, ça a commencé à germer dans mon esprit. Cardiologie, c'est bien. Chirurgie, c'est bien. Pourquoi pas m'intéresser à la chirurgie cardiaque? Mais ça demande énormément d'investissement. Donc ça veut dire qu'on sacrifie beaucoup, beaucoup de notre temps. Alors ma journée type, elle a un peu évolué évidemment au cours de ma pratique. Quand je suis arrivé ici, je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après ça s'est modifié. Donc ma journée type maintenant, en général je me réveille vers 6 heures. J'arrive ici à 7h, 7h15. Et puis intervention chirurgicale. En fin de matinée en général on consulte. Et si tout va bien, on retourne chez soi le cœur léger. jour, effectivement, j'ai eu besoin de plombier, tout simplement, parce que j'avais acheté une vieille maison qui avait une seule cabine de douche. Ça fermait pas, ça fuyait de partout quand on prenait la douche, etc. Au bout de quelques mois, j'ai craqué, j'ai coupé l'eau, j'ai coupé les tuyaux et j'ai passé la cabine par la fenêtre. Et là, je me suis dit, c'est bien, t'as agi un petit peu impulsivement, mais maintenant, comment tu fais? Et donc, j'ai essayé d'appeler un plombier. Et comme tout le monde, on se heurte à la disponibilité des plombiers, des artisans en général. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à comment bouchonner des tuyaux de cuivre. Et c'était les débuts d'Internet, avec les débuts des tutos. Je suis allé acheter des bouchons dans les grandes surfaces de bricolage, là. Et puis je me suis dit, il faut essayer de le coller, c'est-à-dire le braser, on appelle en plomberie. Et puis, j'ai eu de la chance, puisque la première tentative a été la bonne. Et j'ai pu remettre l'eau le soir même. Donc, et après, je me suis dit, c'est bien, t'as de l'eau, mais ça suffit pas. Il faut maintenant finir la salle de bain. Je l'ai fait. C'était complètement nul, je pense, avec le recul. Mais enfin, en tout cas, c'était fonctionnel. Mais en même temps, j'avais la désagréable impression que c'était peut-être pas conforme aux règles de l'art. Et c'est là où je me suis dit, ça serait bien d'avoir des conseils de professionnels. Donc, il y a un institut à Bordeaux qui dispensait des cours pour adultes. J'y suis allé. On était 10, il y avait donc 9 autres adultes. Eux avaient cette envie de reconversion. Et évidemment, quand ils ont su ce que je faisais, ils m'ont dit « Allez, Jean-Philippe, fais pas ton fier, viens passer le CAP avec nous. » Et là, ça a commencé à germer. Je me suis dit « Mais après tout, qu'est-ce que je risque ?» Je fais la formation comme eux. Eux, ils vont être sanctionnés ou pas par un diplôme. Je risque rien. Ma vie n'en dépend pas. Je veux pas me reconvertir. Je ne vivrai pas de cette plomberie. Je vis de ma chirurgie. Et donc, ça a commencé à germer dans mon esprit facétieux. Et je me suis dit, allez, banco. Je me souviens être retourné voir la secrétaire de façon décalée de l'institut pour savoir si je pouvais encore m'inscrire au CAP. Elle m'a dit oui, sans trop me lever les yeux du dossier qu'elle était en train de remplir. Et quand elle m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit chirurgien cardiaque. Là, c'est digne d'intérêt. Et elle m'a dit ah. Et donc, c'est là où elle m'a dit, vous passerez pas ni les maths, ni le français, ni la physique. Et voilà. Et donc, l'histoire. Et je me suis retrouvé, quelques mois plus tard, en train de passer le CAP dans un lycée professionnel de la région bordelaise, à Blanquefort, là. Alors, il y a d'abord l'épreuve d'atelier, qui est sur 2 jours, qui est 14 heures quand même. On vous donne une pièce de plomberie à réaliser. L'avant-dernier jour, on tire une épreuve de dépannage au sort. Moi, je suis tombé sur un changement de mécanisme de chasse d'eau. J'ai eu 20 sur 20, j'étais très content. Donc, j'obtiens mon diplôme de CAP. Alors, évidemment, en amont, la communication ici avait fuité. Tout le monde savait que je préparais un CAP de plomberie dans le personnel, les infirmières, mes collègues. Au début, j'ai été pris pour un... c'est une lubie, quoi. Enfin, quelque chose de pas très sérieux. Et puis, quand je l'ai eu, évidemment, tout le monde a rigolé. Jusqu'à ce qu'on ait besoin de moi. J'ai dépanné beaucoup, beaucoup de collègues chirurgiens ou médecins. Les infirmières, je me souviens, un jour, m'ont dit « Ah, mais pareil, j'ai ma chasse d'eau qui fuit, je voudrais changer un robinet, je voudrais monter un WC. » Et là, je me suis dit « t'as passé un CAP, autant l'exploiter. » Donc, ça m'a amusé, je me suis dit « Voilà, je vais aller dépanner les gens, et puis ça leur rendait service. » Puis moi, ça me rendait service à moi, ça me permettait de mettre en pratique ce que j'avais appris. Et j'ai commencé à faire de plus en plus de travaux de plomberie, en plus de ma chirurgie. Alors, au début, j'amputais beaucoup mon temps libre, puisque je faisais la chirurgie, et j'allais faire cette plomberie après, c'est-à-dire soit en quittant mon travail de la clinique, soit sur les week-ends. C'est comme ça que ça se passait au départ, jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus chronophage. J'étais de plus en plus sollicité sans avoir fait aucune publicité. J'étais obligé de m'équiper d'un petit utilitaire, un vrai. Et puis je me suis mis à intervenir chez des gens que je connaissais pas. Donc là j'ai créé ma micro-entreprise. Installation sanitaire, Grim-O, j'ai fait un jeu de mots. Grim-AU, voilà. J'ai un copain qui m'a dit « t'aurais dû rajouter au cœur de vos tuyaux ». J'ai dit « non, ça fait peut-être un peu too much ». Et donc, au tout début, quand l'activité était grandissante, c'est comme ça que ça s'est passé. Je venais le matin avec mon utilitaire que je garais sur le parking de la clinique. Je mettais ma tenue de chantier dedans. Et le soir, quand je partais, j'allais chez le client. Qui n'ont pas toujours compris, d'ailleurs, que je puisse annuler des rendez-vous sans les prévenir. Puisque parfois, je me disais, je vais pouvoir passer chez telle ou telle personne demain après-midi, après mon bloc. Sauf que le bloc était décalé, se passait pas comme on le voulait. Et il était évident qu'à ce moment-là, je pouvais pas sortir du bloc pour aller téléphoner à la personne avec qui je m'étais engagé pour dire, écoutez, je suis désolé, mais je vais pas passer. D'abord, il savait pas que j'étais chirurgien cardiaque, parce qu'au départ, je le disais pas systématiquement. Parce que je pense que je suis pas sûr que tout le monde ait compris. Les rares fois où je l'ai dit d'emblée, ou parce que justement, il fallait que je justifie une absence non annoncée, j'ai été heurté à cette incrédulité. Et oui, il me dit, mais pourquoi? C'est ça, pourquoi? C'était un petit peu compliqué d'expliquer à chaque fois. Mais je dis, je suis là, je vous rends service, ça me suffit. Alors bien sûr, je me suis posé la question de savoir si je pouvais cumuler les deux, à tel point que j'ai demandé l'autorisation du Conseil de l'Ordre, enfin l'avis du Conseil de l'Ordre. Alors localement, ils m'ont dit, on peut pas vous répondre. Le Conseil départemental m'ont dit, alors là, on n'a jamais eu le cas. Donc ils ont demandé au service juridique parisien, au Conseil national de l'Ordre, et j'ai reçu ensuite une lettre que j'ai toujours, en disant, dans la mesure où c'est deux activités complètement différentes, vous pouvez cumuler les deux. J'avais peur qu'on puisse me reprocher de faire de la pub d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire d'aller chez les gens en disant, vous voyez, si un jour vous votre famille avait besoin d'un chirurgien cardiaque, et inversement, en tant que chirurgien cardiaque, de dire, écoutez, si vous avez besoin d'un plombier, donc j'avais peur qu'il y ait des interférences entre les deux, j'ai préféré me prémunir, oui. Il y a eu aussi beaucoup de questionnements, en revanche, au niveau du portail des auto-entrepreneurs. Quand j'ai téléphoné pour m'inscrire, ils ne comprenaient pas. Là, elle a carrément dit, attendez monsieur, vous êtes chirurgien cardiaque, vous avez un numéro Siret de profession médicale et vous voulez faire de la plomberie. Ils le savent pareil. Mais après, non, ça s'est passé tout à fait naturellement, on m'a plus rien demandé après. Au début, mon entourage, ils se sont dit c'est papa encore une fois, enfin en particulier mes enfants, c'est lui, il faut toujours qu'il soit dans le challenge. Mais non, plutôt bien, et puis je rendais service à la fois à la maison et à beaucoup de gens, évidemment en leur faisant, entre guillemets, économiser de l'argent. Puisque je vivais pas de cette activité, j'ai jamais voulu en vivre. Je faisais rembourser le matériel que j'investissais, mais c'était extrêmement rare que je me fasse payer la main d'œuvre, extrêmement rare.
J'ai lu que vous étiez vraiment le plombier le moins cher de Bordeaux.
J'ai lu quelque part que justement ça pénalisait les vrais plombiers, mais c'est pas le vrai. Je veux dire, il y a tellement de travail pour tout le monde, donc non, ça ampute pas la rémunération des vrais plombiers, je crois pas.
Pourquoi faites-vous ça finalement?
Je sais pas, je l'analyse pas, je crois pas avoir besoin de reconnaissance, mais c'est mon côté, oui, peut-être bon samaritain, mais c'est comme ça, c'est instinctif, je suis content, je crée des relations humaines, je découvre des belles personnes, parfois des moins belles. Le rapport de soignant à soigné, et en particulier en chirurgie cardiaque, est pas du tout le même. Parce que, bien sûr, quasiment 100% de nos patients nous sont reconnaissants. Alors que quand je côtoie le milieu de l'artisanat, j'ai été obligé de comprendre que, fallait synchroniser les agendas. Et puis, je vous dis, le rapport avec les clients, cette fois-ci, ce sont vraiment des clients, ils sont parfois plus exigeants, à juste titre. Ça m'a permis de découvrir une autre facette des rapports humains. Et nous, ce qui est le plus bouleversant et le plus déstabilisant pour nous, et pour moi en particulier, c'est quand un malade va pas bien et que ça se solde par un décès. Ou que le résultat escompté n'est pas à la hauteur de ce qu'on avait annoncé au patient. Et ça, quand un patient malheureusement décède, moi j'ai du mal à fermer la porte de mon bureau, à ne plus y penser. Et en général, là où les nuits qui suivent, je dors très mal, je peux pas m'empêcher de me mettre à la place de sa famille. Je crois que c'est Dormesson qui disait, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans le cœur des présents. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser à la douleur de ses familles et à ma propre douleur. Et donc, on a besoin de s'évader. Et donc, la plomberie, ça a été un parfait exutoire. Et c'était aussi... Mais ça, c'était vraiment au tout début, quand j'ai décidé de passer le CAP, même si je l'ai jamais verbalisé comme ça. Je voulais envoyer un message implicite à mes enfants. Ils ont tous du boulot, mes enfants, mais je voulais leur envoyer le message que c'est pas parce qu'on a un boulot conventionnellement bien assis dans la vie, qui permet de bien vivre et de s'épanouir. Si c'est pas le cas, il faut pas hésiter, s'il y a un espèce de mal-être, il ne faut pas hésiter forcément à trouver quelque chose qui nous épanouit plus et qui nous équilibre. Mon fils, pendant un temps, il voulait faire de la boulangerie, même s'il est graphiste. Mais pourquoi pas ? Tout est possible.
Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Audric, j'ai 33 ans, je suis gardien d'immeuble dans le 16e arrondissement de Paris et je suis aussi pianiste. Je viens d'une famille pas du tout musicienne. Ma mère est secrétaire médicale et mon père fait du vin. J'ai découvert le piano et la musique classique vers l'âge de 9 ans. Ma mère m'a dit un jour, tiens, regarde Audric, on a un cours gratuit offert par la mairie, un cours de piano ou d'aquarelle, qu'est-ce que tu choisis ? Et j'ai choisi le piano, voilà, complètement par hasard, et dès le premier cours de piano, c'était une révélation. Quand j'ai posé mes mains sur le piano, mes premières notes, les sons, les vibrations, les émotions, tout ça m'est venu d'un coup et j'ai adoré. Avec le recul, je pense que j'étais un enfant assez réservé, très timide. Je parlais pas beaucoup et je parle toujours pas beaucoup de moi. C'était un moyen vraiment de m'exprimer autrement. C'est ça sûrement que j'ai aimé. J'ai senti que la musique, ça serait ma vie. Je me suis juré à moi-même d'ailleurs. Je me suis dit, Audric, plus tard, tu seras pianiste ou rien. Ma prof de piano me faisait jouer un peu de la pop, des musiques contemporaines, variétés, etc. Mais avec le temps, je me suis aperçu que c'est pas du tout ce qui me correspondait. Non, moi, en cachette, je travaillais du Chopin, j'écoutais du Chopin, du Beethoven, du Mozart. Et voilà, et au bout d'un moment, ma prof s'en est rendu compte et là, on a vraiment entamé la musique classique. Et après, j'ai intégré le conservatoire de Besançon vers l'âge de 14-15 ans, en même temps que le lycée. Ensuite, j'ai poursuivi dans des plus gros conservatoires, à la Haute École de Musique de Genève, où j'ai passé 4 ans là-bas. Ensuite, j'ai été au conservatoire de Berlin, une année. Ensuite, j'ai poursuivi au Golansky Institute de New York, et j'ai terminé à l'École Normale de Musique de Paris. Je sors du coup de ce conservatoire, donc le dernier. Ensuite, on se retrouve face à une jungle, où finalement on ne sait pas trop quoi faire. Pendant des années, on a appris à jouer, à bien jouer, etc. Sauf qu'on ne nous a jamais appris à ce qui allait se passer ensuite. Se vendre, trouver des concerts, trouver un agent, gérer son image. Et c'est la descente aux enfers et le mur de la réalité, je le prends en pleine face. Et j'ai trouvé un tout petit appartement dans le 11e arrondissement. Appartement si petit que j'avais pas la place de mettre mon piano dedans, donc la seule solution que j'ai trouvée, c'était de le mettre à la cave. C'était moitié plus petit que cette loge où nous sommes, et c'était des murs en béton, des tuyaux partout qui goûtent, et un plancher en bois. Il faisait frais, en hiver très froid. Voilà, je jouais avec une écharpe, des mitaines et un manteau. Et au bout d'un moment, c'est vrai que les habitants ont commencé un peu à se plaindre parce que ça faisait quand même du bruit, tout le son remontait dans l'immeuble, etc. Et on m'a enfermé plusieurs fois dans le noir, dans la cave, en guise de représailles. Heureusement que j'avais du réseau sur mon téléphone pour prévenir un ami pour qu'il vienne m'ouvrir. Voilà, je lui ai passé la clé sous la porte, mais après ça s'est reproduit plusieurs fois. Je me suis dit ça peut plus durer et surtout au bout de plusieurs mois, à rester toute la journée au sous-sol, ça commence à atteindre le moral. Je me suis dit, Audric, là, il faut quelque chose de mieux. Et surtout, gagner un peu plus d'argent pour avoir un plus grand appartement, pour pouvoir mettre mon piano et avoir une vie décente. Donc à cette période, j'ai commencé à chercher plein de choses, vendeur de fruits et légumes, caissier, je suis tombé du coup à ce moment-là sur cette opportunité de gardien d'immeuble. Et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée puisque j'aurais une loge gratuite entre guillemets où poser mon piano, où donner mes cours de piano, sans parler du petit salaire en plus qui m'assure une petite sécurité. Alors, la première fois où j'ai vu la loge, je me suis dit « Oh là là, catastrophe !» Elle était moisie, pourrie, pleine de rats, j'ai trouvé un écureuil mort sous un tas de bois. Donc, j'ai tout rénové, j'ai tout repeint. Dans une partie de la loge, on a le balai, l'aspirateur, la serpillière. Et de l'autre partie, nous avons le piano et mes petites reliques musicales. J'ai un petit buste de Chopin sur mon piano qui m'accompagne et qui me surveille aussi. Et au mur, nous avons aussi un autographe de ma pianiste préférée, Martha Argerich, donc la meilleure pianiste du monde. La factrice dépose le courrier devant ma porte et c'est moi qui le mets dans les boîtes aux lettres. Tous les jours. Bonsoir. Au début, j'ai essayé de vivre ici pendant 2 semaines. Je me suis vite rendu compte que les locataires me sollicitaient jour et nuit, bien au-delà de mes horaires officiels de gardien. La première semaine où j'étais dans cette loge, on a toqué à ma porte à 5h du matin pour me dire « Désolé, il y a une crotte sur le trottoir, il pleut, puis ça va s'étaler si personne ne fait rien. » Bon, j'étais un peu endormi, un peu choqué, et sur le moment, j'ai dit « Ok, je suis allé la nettoyer. » Mais je me suis dit « Ça ne peut pas être récurrent. » Et c'est une anecdote parmi d'autres, il y a eu plein d'autres choses. Des gens me réveillent la nuit en pensant qu'il y a un cambrioleur dans la cour, etc., etc. Donc je me suis dit « Non, je vais vivre ailleurs. » Et par chance, j'avais encore mon appartement dans le 11e arrondissement. Donc j'ai pu y retourner vite fait. J'ai la chance d'avoir un tout petit loyer et j'ai le salaire de gardien, c'est pas mirobolant. Et heureusement, à côté de ça, je donne mes cours de piano, donc je m'en sors. Ça va faire bientôt 2 ans au mois de février là que je suis dans cette loge et que je suis gardien. Alors la journée d'un gardien d'immeuble, donc j'arrive à 8h du matin. Je fais un rapide check-up de la propreté des parties communes. Donc, il y a toujours des déchets un peu partout. Je ramasse. Le lundi, c'est aspirateur, serpillière dans tout l'immeuble. Le mardi, aspirateur, serpillière dans le 2e bâtiment au fond de la cour. Ensuite, le mercredi, en général, c'est les vitres. Et voilà, en fait, en gros, c'est tout. Sinon, la plupart du temps, je suis dans cette loge et je réceptionne des colis. Ça, c'est toute la journée, non-stop. Je suis à la loge de 8h à 20h, 20h30, 21h, parce que je donne cours aussi l'après-midi et le soir. Pour être tranquille, puisque la journée, je suis sans cesse interrompu par les colis, les locataires, etc., j'ai pris l'habitude de rester un peu plus tard le soir et de jouer la nuit du piano. Dans l'espoir de ne pas réveiller donc tout l'immeuble avec mon piano la nuit, j'ai choisi d'interpréter des œuvres plutôt calmes et plutôt douces. Et ça collait parfaitement avec l'ambiance cosy et intime de cette petite loge la nuit éclairée avec quelques bougies. La journée, c'est la loge du gardien et la nuit, c'est la loge du pianiste. Il y a eu aussi une phase de doute où je me suis dit je fais plus trop de piano, je fais plus aspirateur et ramassage de crottes. Il y a eu un questionnement sur mon identité. Je me suis dit, bon, est-ce que je suis concierge et pianiste? Est-ce que je suis concierge et plus trop pianiste? Enfin, ça a pris du temps, ouais. Et après, je me suis dit, non, joue, continue, persévère. Et j'ai bien fait. Être gardien d'immeuble, c'est très physique. Il faut pouvoir porter l'énorme aspirateur sur les 8 étages, en descendant, en remontant, faire les carreaux. Il m'est arrivé d'avoir des douleurs au bras et de ne pas pouvoir jouer de piano pendant plusieurs jours. Mais peu importe ce que je fais, ménage, lavage de vitres, etc., j'ai toujours ma musique dans mes oreilles. Ou alors je compose mentalement un peu, j'ai des mélodies qui me viennent comme ça, je chantonne, je siffle. Et dès que j'ai terminé le ménage, je file au piano vérifier si ce que j'ai pensé est beau, joli, je développe, je compose. Voilà, tout se fait toujours en musique. Ma vie tourne autour de la musique. Ça m'arrive carrément d'interrompre ma session de ménage pour aller au piano noter une idée que j'ai eue. Alors, il y a des résidents avec qui ça se passe très très bien, qui adorent m'écouter jouer. Au début, quand ils m'ont entendu, quand ils ont vu le piano, oui, ils étaient très surpris, ils n'ont pas trop compris. Bon, ils ont pensé que je pianotais un peu comme ça, mais après, au fur et à mesure, en m'entendant jouer des heures et des heures par jour... relativement bien, j'espère. Ils sont aperçus que voilà, j'avais un certain niveau et que c'était aussi une grosse partie de ma vie. Voilà, que j'étais pas que concierge, j'étais aussi pianiste. Mais il y a quelques résidents un peu récalcitrants à l'ancienne qui aimeraient que je me cantonne au job de concierge, que je fasse pas de bruit. Un jour, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une petite lettre anonyme qui disait... récure le hall d'immeuble plutôt que faire le musicien, voilà, un truc comme ça. Donc
c'est des colis. Voilà ce que je fais la plupart de mon temps. Récupérer les colis.
Le fait que je sois gardien d'immeuble, j'en ai pas vraiment parlé autour de moi pendant très longtemps. J'avais peur du regard des gens, peur qu'ils pensent que j'étais finalement un musicien raté ou un musicien de seconde zone. Ou aussi, on avait ce cliché du gardien d'immeuble, de la vieille dame, de la vieille gardienne. J'avais pas envie qu'on projette ça sur moi. Mais avec le temps, j'en ai parlé à une personne, deux personnes, ma famille. Je me suis aperçu qu'ils étaient déjà très fiers de moi et admiratifs de mon courage et ma persévérance. Personne ne m'a pris pour un demi-musicien ou un musicien raté. Alors pour l'instant, je profite de la sécurité un peu financière et psychologique que ça m'apporte. Mais évidemment, à terme, évidemment, j'aimerais faire des concerts, d'être sur scène, de composer ma propre musique, de jouer ma propre musique sur scène. Voilà, ça c'est toujours mon rêve. J'espère y arriver.
C'était Double Emploi, reportage d'Olivia Muller et Carole Bailly, réalisé par Éric Lancien. Merci à Jean-Philippe Grimaud et à Audric de Oliveira, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy avec cette semaine Zoé Coupé. Et notre stagiaire, c'est Mina Morel.